Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, c'est tombé ce matin, il y a un mandat à 95 % en faveur de la grève obtenue par le Front commun qui regroupe la CSN, CSQ, FTQ, la PTS, ce qui veut dire qu'on se prépare pour une escalade des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Bon, c'était un peu prévisible. On nous dit que c'est un mandat historique, que jamais les syndiqués ont été aussi favorables à un mandat de grève. Ça va commencer par étapes et c'est pour, évidemment, ajouter à la pression sur le gouvernement. On sait qu'en fin de semaine, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, devait recevoir la liste de ce qui est important. Alors, on ne sait pas trop si ça s'est fait, qu'est-ce qu'elle a reçu. Puis il faut toujours essayer de décoder un peu le flou et, disons, les spins dans des dossiers comme celui de la négociation. Il y a un élément qui demeure un peu mystérieux dans ça. OK, on a voté à 95 %, mais quel est le taux de participation? Je sais que les syndicats n'aiment pas beaucoup quand on soulève cette question-là, mais moi, je la trouve pertinente. Quels sont, en fait, quel est le nombre de syndiqués qui ont voté en faveur de ces mandats de grève? J'imagine une majorité. Mais ça devrait faire partie de l'information publique. Ça ne l'est pas ce matin. Et le gouvernement est donc interpellé. Le Front commun dit, on a des mandats clairs, on peut aller jusqu'à la grève cet automne, mais en même temps, on vous fait part de notre ouverture pour trouver donc un terrain d'entente. On verra pour la façon dont ce sera reçu à Québec et on va recevoir le président de la CSQ un peu plus tard ce matin, M. Gingras. Regardons la situation du côté de cette 11e journée de confrontation entre Israël et le Hamas. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des efforts, des discussions pour essayer d'ouvrir ce corridor humanitaire entre Gaza et l'Égypte. Les Américains ont mis beaucoup de pression. Tout indique que ça va probablement se faire, mais que pour l'instant, ça demeure un projet. Il n'y a pas d'annonce officielle. On est vraiment dans une situation où ce corridor, et je voyais des images ce matin, il y a des marchandises, des médicaments qui sont stockés sur des palettes et qui attendent d'être livrés. Donc, l'Union européenne dit on va ouvrir ce corridor. Les deux premiers vols à partir de cette semaine vont pouvoir livrer du matériel humanitaire et il y a des convois qui vont pouvoir amener par exemple, du carburant, de la nourriture, de l'eau. Mais faut obtenir l'accord d'Israël, ce qui n'est pas le cas. Et l'aide humanitaire a été fixée à 75 millions par l'Union européenne. Première chose. La deuxième, le président Biden débarque demain en Israël pour montrer d'une part la solidarité des Américains, mais aussi pour essayer de regarder les avenues diplomatiques. Et on va en reparler avec Jean-François Lépine tantôt, mais c'est clair qu'il y a des efforts, notamment de l'Europe et même de l'Asie, pour essayer de voir quelles sont les voies de passage pour un peu procéder à une forme d'accalmie dans la région. Parce que au cours des dernières heures, l'armée israélienne a annoncé le bombardement de positions militaires du Hezbollah au Liban. Donc, on parle beaucoup de Gaza. Je rappelle qu'il y a 1 million de personnes qui ont été déplacées, qui se trouvent dans des refuges temporaires, qui savent pas s'ils vont retourner chez eux. Le Hamas aurait également des miliciens fait obstacle sur la route. Et on les condense dans la partie, à l'extrémité de Gaza, dans des conditions évidemment terribles, des conditions sanitaires et des conditions qui ne respectent pas la qualité de vie des gens. Puis là, on voit des femmes, on voit des personnes âgées, puis on voit des bébés, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Et on voit aussi qu'Israël, qui a toujours une force de frappe importante terrestre à la frontière se retient pour lancer des opérations terrestres massives. Il y a des bombardements, il y a de l'infiltration, c'est sûr, mais la grande opération lancée par l'armée israélienne n'est pas encore commencée. On est toujours à l'étape des préparatifs. Et je rappelle que l'Iran a réitéré son intention d'intervenir dans le conflit si jamais, dans les prochaines heures, l'armée israélienne déclenche cette attaque terrestre dans la bande de Gaza. C'est pas la première fois que Téhéran dit que ça va entraîner une riposte sur d'autres fronts, ce qui fait craindre une forme de flambée dans la région. Ce sont donc les dernières informations. Il y a aussi le Hamas qui a diffusé la vidéo d'une otage franco-israélienne qui est détenue dans la bande de Gaza. C'est une jeune fille de 21 ans qui s'appelle Mia et qui dit « S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici le plus vite possible ». On prétend qu'il y a à peu près 200 personnes qui ont été prises en otage par le Hamas. C'est la version des forces armées israéliennes. Et du côté du Hamas, on parle plutôt de 200-250 personnes. Alors, combien sont décédés depuis le début, depuis 11 jours? Difficile à dire, mais il y en a quand même un certain nombre. Entre-temps, il y a des événements collatéraux. D'abord, je le disais en termes d'approvisionnement, la plupart des observateurs là, pensent qu'il reste environ 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant. Et là, on parle de rationnement puis d'une gestion extrêmement serrée. Ce qui fait que si on n'est pas capable d'ouvrir ce corridor, on va avoir des enjeux de santé publique importants dans Gaza. D'autre part, je veux parler de tous ces événements en parallèle. À Bruxelles, ce matin, l'auteur du double assassinat qui s'est passé hier, qui a été revendiqué par l'État islamique, parce que ce meurtrier, on aperçoit dans une vidéo, d'ailleurs comme membre de l'État islamique, tout laisse croire que sa motivation probable découle du fait qu'il a fait feu en direction de gens qui portaient les couleurs d'une équipe sportive de Suède. Or, en Suède, il y a eu ce qu'on appelle des gens qui ont décidé de faire flamber le Coran, de mettre le feu. Autodafé, c'est l'expression utilisée, et que après ces autodafés, il y a eu des alertes répétitions dans toute la Suède, Stockholm, en disant il y aura une vengeance, puis il y a des organisations terroristes qui ont ciblé le Danemark, qui ont ciblé Stockholm. Donc cet individu aurait tué deux Suédois, et lorsqu'il a été vu dans un café, il y a eu, on n'a pas beaucoup de détails, des coups de feu tirés, il a été blessé et finalement il a succombé à ses blessures. La fusillade s'est produite 19h15 à la limite de Bruxelles et de Molenbeek, située tout près du centre de la capitale. Le tireur est arrivé sur une moto, un scooter, avec une arme lourde, a suivi des personnes qui portaient le maillot de l'équipe nationale suédoise de football et a ouvert le feu. Et finalement, s'est sauvé. Les policiers ont tenté de le localiser. Ça a pris du temps. Et il y a plusieurs vidéos qui circulent sur Facebook où, entre autres, ce terrorisme revendique l'attentat en se présentant comme combattant d'Allah. Alors, c'est un homme qui était en situation illégale d'immigration, originaire de Tunisie. Et je rappelle aussi le cas de cet enfant de 6 ans. Ça, c'est une horreur incroyable à Chicago, en banlieue de Chicago. C'est un enfant de 6 ans qui a été poignardé à mort 26 fois. Sa mère a été grièvement blessée. Elle a 32 ans. Pourquoi ils ont été agressés? C'est le concierge, un gars de 71 ans. Réponse, ce sont des Palestiniens. Et les policiers ont dit, on n'ira pas dans le détail de l'enquête, mais c'est clair que ce sont des Palestiniens donc qui vivent aux États-Unis. Et qu'en réponse aux attaques du Hamas, cet homme de 71 ans a décidé de se venger sur un enfant de 6 ans. C'est un enfant qui est mort parce qu'il est palestinien. Sa mère a été agressée parce qu'elle est palestinienne. C'est aussi simple que ça. Et on pense aussi que d'autres événements s'inscrivent en réaction. Est-ce que ce qui s'est passé à Bruxelles peut avoir un certain lien avec ce qui s'est passé à Chicago? Il y en a qui le pensent, d'autres pas. Ça reste à voir. Et ça s'ajoute, évidemment, à l'assassinat d'un professeur dans le nord du Pas-de-Calais vendredi. Des blessés également. Et des nombreux appels à la bombe qui ont amené la fermeture du Louvre, du Palais de Versailles, aussi durant la fin de semaine. Et c'est triste à dire, il y avait eu cette menace lancée par le Hamas vendredi. Et on a vu à Montréal des mesures prises là dans des cibles potentielles de la communauté juive, des synagogues, le musée de l'Holocauste et autres, et dans des secteurs de l'île de Montréal où il y a une concentration plus importante de la communauté juive. C'est sûr que malheureusement, des événements collatéraux comme ça, d'une extrême violence, vont se reproduire. Et on le voit d'ailleurs dans le langage, entre autres, du président français Emmanuel Macron, qui dit « c'est pas vrai qu'on va tolérer ça ». Et qu'il faut mener une lutte radicale, sans compromis, pour justement éradiquer les gens qui sont devenus extrêmement violents et qui posent des gestes qui sont tout à fait inacceptables. Bon, nos dossiers locaux, on va commencer par la Société d'assurance automobile du Québec. C'est encore une fois le bordel. Suite à une mise à jour qui s'est prolongée avec un effet domino sur l'accès aux informations. Et je dirais une espèce de tentative de camouflage habituelle de la Société d'assurance auto. Si on n'a pas des appels de citoyens, si vous ne partagez pas l'information quand vous constatez sur place qu'il y a un problème, ben c'est pas la Société d'assurance auto qui va nous le dire. Leur première mission, c'est de se protéger le cul. Et ça, là, c'est constamment. Alors, on a appris, parce qu'on leur a posé des questions, puis ça a pris des heures avant qu'ils le disent, là, que la mise à jour bizarrement programmée dans la nuit de dimanche à lundi s'est prolongée et les gens n'avaient pas accès à des informations, pas à 100%, mais disons que le service était pas mal paralysé. L'autre vérité qui n'est pas partagée, c'est qu'on a beau nous dire que ça s'est amélioré, ça c'est vrai, mais qu'il y a encore plein de problèmes à la Société d'assurance auto depuis le lancement du Titanic le mois de février dernier. Je rappelle le rapport de la firme Pricewaterhouse qui a conclu que les gestionnaires avaient sous-estimé l'impact du changement, avaient mal évalué l'impact auprès des habitudes de la clientèle. Autrement dit, là, ils ont regardé ça de haut, comme des fonds dans la tour d'ivoire, et n'ont pas été en mesure, malgré certains avertissements, d'arrêter le processus parce qu'on n'était pas prêt à procéder au changement. C'est une firme indépendante qui arrive à cette conclusion. Je vous donne un petit exemple ce matin de ce qui se passe encore. C'est un automobiliste qui, depuis 20 ans, fait la remise de sa voiture pour l'hiver. Il reçoit, toujours à peu près aux mêmes dates, là, peu de choses près, il reçoit un remboursement sur ses plaques là, de 160 $. Mais hier, il s'inscrit, il va fouiller dans la machine, et là, on lui propose un remboursement de 26 $. Il ne comprend pas trop pourquoi. La différence est quand même importante. Ce qui fait qu'il a rentré quelques dates différentes, et le montant s'est promené entre 23 et 166 $. Et là, il attend juste de voir quel montant va finalement lui être payé. Bref, c'est encore tout croche. Et un, le PDG ne sort pas. On nous envoie quelqu'un des relations publiques, là, qui, évidemment, dont c'est le mandat, mais je persiste à dire que les PDG et les ministres sont responsables et doivent répondre aux questions. Et là, Mme Guilbeault ne veut pas répondre. Le PDG, on nous dit qu'il n'est pas capable de répondre. Il n'est pas bon en communication. Quand le message, c'est de nous dire, vous savez, on a un PDG fraîchement nommé, là, qui s'appelle Ducharme, Éric Ducharme. Ben Monsieur Ducharme est pas une bonne personne à interviewer, il est pas ben bon. Fait qu'on va vous envoyer une porte-parole qui décide rien, mais qui parle mieux. Ça, c'est pour informer le public. Puis au cabinet de la ministre, pas de réponse non plus. On envoie ça dans la cour de la Société d'assurance automobile. Autre dossier, celui de la Banque nationale, donc des clients commerciaux qui ont été fraudés, les sommes varient, mais peuvent être importantes. Il y a des gens qui se sont fait vider leur compte comme ça, de 250 000 $. Pierre-Yves a souligné la chose. Le Journal de Montréal, la semaine dernière, en parlait. Et là, c'était pas clair ce que la banque allait faire. Est-ce qu'on rembourse totalement, en partie, les montants perdus? Moi, on m'a raconté l'histoire d'un client qui s'est fait voler 250 000. Et la banque a offert la moitié, 50 %. Tu dis, OK, mais sur quelle base c'est 50%? On pense que c'est correct. Je comprends que si on est capable de prouver que le client a participé à la fraude, c'est pas à la banque de payer. Mais si je me suis fait arnaquer, hameçonner, et que quelqu'un part avec mes données personnelles est allé vider mon compte, c'est la responsabilité de la banque. Parce que l'autre message que ça envoie, gardez pas trop d'argent en liquidité dans vos comptes, parce que si vous êtes victime d'une arnaque, la banque va pas vous payer. Là, ils étaient assez arrogants, je dirais, au début de la journée, pour ne pas dire condescendants. Ils se sont calmés le pompon en après-midi. Et là, visiblement, ils commencent à rembourser les gens. On parle pas de milliers de personnes, là, quelques dizaines de clients. Mais quand même, et ça nous ramène à la question de la confiance. Même affaire avec la Banque Laurentienne quand le système a pété. Même affaire avec la Société d'assurance automobile du Québec. Même affaire avec la Banque nationale. C'est une question de confiance. Est-ce que je leur fais confiance ou pas? On va leur parler un peu plus tard ce matin. Rapidement, dans les autres nouvelles, en santé, plus ça change, on dirait plus c'est pareil. On apprend ce matin dans la presse qu'on avait un plan de 400 millions de rattrapage en chirurgie. Donc, pour payer du temps supplémentaire, pour ouvrir les blocs opératoires, pour faire en sorte, comme on disait l'autre jour, que quand, à 3h15, on décide que c'est terminé, parce qu'il faut finir à 4h, puis qu'il y a un patient qui attend toute la journée, puis qu'on retourne chez lui, puis qu'on dit, ben on va te donner une nouvelle date plus tard. Bref, pour augmenter la cadence des chirurgies. Donc, la presse nous dit, le fameux 400 millions, là, il n'y a pas une scène de dépenser encore. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une scène de dépenser? Là, on apprend, et je rappelle que ce 400 millions, c'est le fruit des efforts des médecins spécialistes. Et ça fait partie d'un montant là qui a été récupéré par les médecins spécialistes dans ce qu'on a appelé le fameux programme de la pertinence des actes médicaux. En disant, on va regarder là ce qu'on charge, pour quel acte est-ce qu'il n'y a pas raison de revoir un certain nombre de pratiques. C'est ce qu'ils ont fait. Ils en ont pour 1 milliard, supposément. Mais là, il y a 400 millions pour les chirurgies. Là, ce qu'on nous dit, c'est que, ben, vous savez, ça a été l'été. Fait que là, déjà là, on a de la misère avec les blocs opératoires qui roulent à 75%. En plus de ça, les infirmières, donc, ont été pas mal sollicitées. Et le ministère dit que l'argent est disponible pour les établissements qui vont lever la main. Alors, toi, le patient, t'attends que l'établissement lève la main, qu'il y a un comité formé, on aime ça, pour assurer la distribution dans le réseau, qui n'a pas encore terminé ses travaux. Je répète le mantra. Voulez-vous m'opérer au plus sacrant, n'importe où, dans un centre médical, dans un hôpital, je m'en sac. Vous avez de l'argent, l'argent d'or, puis vous n'êtes pas capable de fournir le service. Et moi, je crois au principe que si l'État ne peut pas fournir le service dans un délai acceptable, trouvez-moi une option au privé et payez la facture. Parce que ça devient complètement inacceptable. Là, ils ont 400 millions. Puis là, le comité est en train de réfléchir comment l'argent va être dépensé. Alors, c'est dans la presse de ce matin. Et puis Radio-Canada nous dit que le recours aux agences privées en santé est resté tout à fait identique à un an de l'interdiction, là. On fait autant appel aux agences qu'avant parce qu'on manque de personnel. Fait que c'est toujours un peu le même type de débat qu'on retrouve dans le réseau de la santé. Et en terminant, ben il y a le premier ministre François Legault qui dit que c'est important de garder le stade olympique. Il est au lancement du livre sur Mike Bossy. On lui a posé des questions. Il y a le fameux projet de l'aîné là, dont on peut voir, entre autres, les maquettes dans le Journal de Montréal. Il dit que c'est important que le stade, et c'est vrai, est un symbole majeur pour Montréal. C'est beaucoup de touristes qui sont intéressés, puis il y a eu quand même des efforts considérables pour rendre ça plus vivant. Et faut saluer toute l'équipe quand même du stade olympique. Mais là, on a un enjeu. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec le toit? Puis on sait que ça va être pas mal plus complexe qu'on pensait, parce que la Société de développement du Parc olympique dit qu'il faut remplacer l'anneau technique, pas juste le toit, là, mais l'anneau technique pour installer un nouveau toit. Complexe et dispendieux.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Donc, la plateforme en ligne de la Société d'assurance automobile du Québec a eu des problèmes lundi. Hier, c'était au terme des travaux de maintenance. Les travaux ont mal viré, ce qui fait qu'il y a des problèmes qui se sont, je dirais, étalés une bonne partie de la journée. On va faire le point avec Geneviève Côté, qui est porte-parole pour la Société de l'assurance automobile du Québec. Madame Côté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, pourriez-vous nous expliquer comment tout ça a commencé?
Oui, d'abord, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui, de m'adresser aux auditeurs. Je suis ici ce matin pour rassurer notre clientèle. La problématique technique qui a été rencontrée hier matin a été résolue à 13h30. Nos services fonctionnent, que ce soit en ligne, dans les centres de services. Bien entendu, on est bien désolé des inconvénients qui ont pu être vécus. Ce qui s'est passé hier, là, en fait, c'est notre système est géré par une série de serveurs, mais malheureusement, hier matin, certains serveurs n'ont pas collaboré. En fait, oui, on a effectué des travaux de maintenance dans la nuit de dimanche à lundi, comme il s'en fait fréquemment, et c'est important de le faire là pour le bon fonctionnement du système. Mais comme nos systèmes sont maintenant disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le meilleur moment pour le faire, là, ça se situe entre 5 heures et 7 heures le matin. Donc, généralement, il y a pas d'incidence, là, comme il n'y a pas d'achalandage important de notre clientèle.
Mais OK, hier, mais attends, je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter un peu parce que je sais pas qui vous a dit ça, là, mais depuis quand la meilleure période pour la maintenance, c'est dans la nuit du dimanche au lundi, entre 5h et 7h le matin?
Ben, en fait, là, c'est que les travaux de maintenance se sont prolongés à l'extérieur de la période qui était prévue. Donc, on a connu des problèmes techniques lors du redémarrage de certains serveurs.
Mais regardez, on va prendre ça du début. La période de maintenance a commencé à quelle heure?
La période de maintenance là, a commencé dans la nuit de dimanche à lundi.
À quelle heure?
Très tôt le matin. Je pourrais pas vous dire l'heure précise, mais ce que je peux vous dire, c'est que à 7 heures le matin, la période de maintenance devait être terminée. Okay. Mais elle a été prolongée parce qu'on a connu des problèmes techniques, mais sur le matériel. C'est un bris mécanique qui est survenu lors du redémarrage. Alors, ce n'est pas une problématique de saclic que nous avons vécu hier. C'est vraiment une problématique qui est survenue lors du redémarrage de l'appareil. Okay. Et à 13h30 hier, là, la problématique était résolue.
OK. Mais Mme Côté, vous allez un peu vite, là. D'abord, est-ce qu'on a pensé faire ça dans la nuit de samedi à dimanche plutôt que de dimanche à lundi?
Les travaux de maintenance sont effectués, comme je vous le dis, toujours dans des périodes où il est évalué qu'il y aura le moins d'impact possible.
D'après vous, y a-t-il moins d'impact la nuit de samedi à dimanche que dans la nuit de dimanche à lundi?
Qui était prévu, comme je vous dis, là, c'est qu'à 7 heures de matin, au moment du redémarrage, là, les travaux de maintenance étaient terminés. Mais là, c'est pas ce qui s'est produit. Ça s'est prolongé d'un bris mécanique. On est vraiment désolé de la situation. Mais à 13h30, là, la situation était résolue. Et je tiens à préciser qu'il y a des services qui étaient maintenus quand même pendant cette période de maintenance-là qui s'est prolongée. Les rendez-vous pour les examens pratiques, par exemple, la reconnaissance d'expérience de conduite, ils ont été honorés dans l'ensemble du réseau. Nos centres d'appel était toujours en fonction, les services d'indemnisation aussi, services de renseignement pour nos clients, services des contrôles routiers aussi.
OK, mais attendez. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, là, mais on va prendre ça par étapes. Savez-vous si les policiers avaient accès aux informations de la SAC sur leurs terminaux hier?
On est en collaboration constante là, avec les différents corps policiers, puis on leur transmet l'information.
OK, moi, ce que j'ai comme information, c'est que les policiers n'avaient pas accès aux banques de données hier, pendant la panne.
Moi, on me dit que ce n'était pas le cas.
Pardon?
Et que les policiers avaient accès. Et en fait, on est en collaboration constante avec eux là, pour pouvoir s'assurer que les informations sont...
Madame Côté, dites-moi que vous le savez pas, ça va être bien correct, là. Mais moi, les policiers me disent que durant la période là où il y a eu le shutdown, là, il n'y avait pas accès aux données. OK, vous le savez pas, c'est correct?
Ce que je peux vous dire là, c'est que nous hier, on a été très proactifs aussi là. On a informé notre clientèle sur les réseaux sociaux pour s'assurer l'ensemble de nos partenaires également, et on a fait une mise à jour en temps réel une fois que la situation
oui,
était réglée.
Vous aussi, savez pas si les policiers ont eu accès, ont pas eu accès à la banque de données pendant la panne. Vous n'avez pas la réponse.
Ce qu'on me dit, c'est que la collaboration est constante avec les corps policiers.
OK. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les services qui ont été affectés? Vous me dites, voici ce qui fonctionnait. Maintenant, on va prendre ça de l'autre bord. Qu'est-ce qui marchait pas hier?
En fait, c'était, comme je vous dis, là, la majorité, il y a plusieurs services là, qui ont été maintenus. Alors, tous les autres services là, que l'on offre, bien sûr, là, comme il n'a pas été possible là, de pouvoir en réaliser quelques-uns pendant cette période de maintenance-là, mais qui était très courte. Par exemple, les rendez-vous n'ont pas pu être honorés pendant cette période-là en centre de service, qui fait en sorte que les gens qui se sont déplacés pour leur rendez-vous, qu'ils n'ont pas pu avoir le service rendu. Et nous, on a replacé la grande majorité des rendez-vous et on replace dès que possible les autres rendez-vous qui étaient possibles, qui étaient prévus dans cette période-là. Également, on prolonge les heures d'ouverture de plusieurs points de service. Okay. Donc, le plus longtemps possible pour répondre aux besoins de nos clients dans cette situation-là.
Madame Côté, avec grand respect, là, et je sais, là, vous êtes porte-parole, vous n'êtes pas la PDG de l'entreprise, là. Moi, je vous appelle un peu l'agneau sacrifié dans le sens que vos boss vous disent « va raconter ça à la radio, va dire aux gens que les services ont été rétablis, essaie de calmer le jeu un peu. » Puis je peux pas vous poser les questions que j'ai envie de vous poser parce que vous avez pas les réponses. Le PDG, le VP aurait pu me répondre. Ils veulent pas sortir, ils vous ont envoyé. C'est vraiment, je vous dis ça, là, c'est sans méchanceté, je suis de bonne humeur, je reste calme. Mais vous n'êtes pas la bonne personne ce matin pour répondre aux questions. Je comprends que c'est vous qu'on a délégué, mais vous n'êtes pas la bonne personne. C'est plate.
Pour parler de la panne là, qui est survenue hier, là, c'est une problématique de mise à jour de serveur.
Oui, ça je sais.
Qui arrive à différents moments. C'est arrivé avant le déploiement de SACLIC. Comme je vous dis, il n'y avait pas de lien avec la plateforme SACLIC et ça arrive fréquemment.
Non, mais c'est correct, mais c'est la plateforme SACLIC qui a pété. Je vous le dis, là, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Mais je pense que vous n'êtes pas la bonne personne pour répondre aux questions qui sont un peu plus pointues, je m'en excuse. Mais c'est un bel effort, puis vous êtes bonne pour véhiculer le message de la Société d'assurance automobile. Merci, Mme Côté.
Je vous en prie.
Au revoir. Geneviève Côté est porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec. Puis c'est vrai que c'est l'agneau sacrifié. Parce que les questions qu'on voudrait notamment poser, qui a pris la décision de faire ça dans la nuit de dimanche à lundi et pourquoi pas dans la nuit de samedi à dimanche? D'après moi, il y a moins d'impact. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, puis elle peut pas me répondre là-dessus, quels sont les autres bugs qui existent et qui persistent à la Société d'assurance automobile du Québec? Trois, c'est vrai que les policiers avaient pas accès aux données. C'est ce que des policiers nous disent. Elle sait pas. Puis là, elle dit, on est en constant. Tu sais, les phrases classiques, je les connais, là. Nous sommes en proaction, nous sommes en consultation, les parties prenantes main dans la main. Je fais tout ça par cœur. Mais la réponse, elle l'a pas. Puis je peux pas la blâmer. Parce que ça fait pas partie des réponses qu'elle est mandatée à nous donner. On va vous donner un exemple ce matin de problème récurrent qui existe depuis, entre autres, le fameux changement technologique. Fred est avec nous. Puis Fred, ce matin, tu vas nous parler d'un cas. C'est une aventure qu'a vécu un auditeur justement avec la Société d'assurance automobile.
Quelqu'un qui est un bon payeur, n'a jamais manqué un paiement d'immatriculation, a configuré des prélèvements. Début du mois, se fait arrêter par les policiers qui lui disent « Monsieur, vos plaques sont pas payées ». Le gars, bien surpris, dit « Ça se peut pas, j'ai des prélèvements, ça se paye tout seul depuis des années, jamais eu de problème ». Le policier lui remet un constat de 482 $, ce qui est quand même pas rien, comprend pas ce qui se passe, décide de creuser un petit peu.
J'appelle à la SAC, j'attends 2h45 avant de parler à quelqu'un qui me dit « Moi, je peux pas rien faire, je vais vous transférer à quelqu'un d'autre, mais c'est pas sûr qu'elle va pouvoir faire quelque chose. » Un autre demi-heure à attendre au téléphone pour finalement me faire dire « Ah ben oui, c'est notre système qui a eu un bug, on comprend pas pourquoi. Les transferts se sont pas faits, donc on a perdu vos informations bancaires. Vous avez aucune infraction, pas de suspension, rien. » Fait que j'ai dit « Oui, mais ça vous tentait pas de m'appeler. » Elle dit « Non, ça c'est votre devoir de citoyen de vérifier si vos plaques sont toujours valides. »
Bon, là, le dossier a été mis à jour dans le système de la SAC, mais il est quand même pris avec son ticket de 482 $.
Non, mais pas de ticket, il peut pas le savoir.
Ben, à moins d'aller sur sa clique.
Oui.
Comme, là, faut s'authentifier, puis c'est tout le
processus. Non, mais si tu vérifies pas, puis t'as pas de raison de vérifier, tu penses que les paiements se sont faits.
Ben, parce que ça s'est fait comme ça depuis des années. Et là, lui doit prendre lui-même ses démarches, plaider non coupable au constat, contester. C'est sûr que la contravention va être annulée, mais c'est tout le trouble qui vient avec.
Voyez que, en faisant le tour sommairement, parce que je pourrais continuer, il y a deux ou trois choses qu'on peut dire pour conclure ce volet. Il y a encore des problèmes majeurs à la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a encore des problèmes majeurs dans la gestion. M. Marcellet, qui était le PDG, qui s'est fait tasser par Mme Guilbeault, son nouveau mandat, tenez-vous bien, c'est de faire le ménage dans les listes d'attente dans le système judiciaire. Il est supposé être efficace pour réduire l'attente, les gens qui sont justement dans l'attente d'un procès. Fait que là, tu sais, le gars gouffé, mais il sauve sa job, puis il est supposé être efficace pour améliorer le système de justice. Très bien. Le PDG qui l'a remplacé, M. Éric Duchamp, à qui on aurait voulu poser toutes ces questions-là, soumettre tous ces cas-là en disant, c'est pas juste là parce que l'ordinateur s'est planté, là, il y a quelque chose de plus important. Ben, on nous a dit qu'il est pas bon en communication. Bon, je comprends que Mme Côté, elle est bonne, mais elle, elle décide pas, puis elle peut pas répondre. M. Duchamp, lui, décide, pourrait répondre, mais il communique mal. Et au bureau de Mme Guilbeault, on dit pas dans notre cour. Fait que là, vous voulez qu'on fasse quoi? Parler à des gens qui jasent avec la maîtrise du français, mais qui sont pas équipés pour répondre? Moi, je suis prêt à m'essayer avec M. Duchamp, même si c'est pas le plus grand communicateur. Je suis convaincu qu'on va trouver un terrain d'entente pour avoir des réponses. Tu sais, on va prendre notre temps, on va pas stresser. Mais il se passe quoi dans votre Christie de boîte pour que ça soit tout croche de même, là? Je rappelle que le système a changé au mois de février.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, parlons des enjeux politiques, diplomatiques. Jean-François Lépine est là. Bonjour, Jean-François. Alors, le président Biden va se présenter en Israël demain à l'invitation du premier ministre Netanyahou. C'est évidemment très symbolique. Ça pourrait avoir comme effet de retarder l'offensive terrestre, mais les enjeux sont considérables.
Ben, il semble que ça la retarde. En tout cas, c'est sûr que les Israéliens ne recevront pas Biden après avoir lancé l'offensive, parce que l'offensive est très critiquée. Une offensive terrestre, ça va coûter une fortune en vies humaines. Pour les Israéliens autant que les Palestiniens, ça va coûter extrêmement cher aussi. Et le président Biden y va. C'est délicat pour lui d'y aller parce qu'il veut pas avoir l'air de cautionner une opération éventuelle qui est très contestée dans le monde et dans la région par, entre autres, les foules des pays arabes avoisinants. Mais il y va d'abord parce qu'il y a un lien de défense historique entre les États-Unis et Israël depuis la création de l'État d'Israël. C'est le pays au monde qui reçoit le plus d'aide militaire américaine. Chaque année, 4 milliards de dollars. Donc, il va là-bas pour rassurer, mais il veut aussi, on l'imagine, essayer de calmer le jeu, essayer de convaincre les Israéliens de quoi? De renoncer à l'offensive terrestre, c'est la grande question. En tout cas, le président Biden a dit dans une entrevue qu'il a enregistrée pour 60 Minutes et qu'on peut voir, il a dit « ne pas souhaiter ». Qu'Israël s'installe dans la bande de Gaza. Parce que le danger d'une offensive terrestre, c'est qu'on va... D'abord, c'est une bataille extrêmement longue. Le ministre de la Défense israélien l'a dit hier après une réunion de 7 heures avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, où Anthony Blinken, j'imagine, essayait d'en savoir plus sur ce qui va s'en venir. Et il a dit, ça va être long, ça va être extrêmement difficile et coûteux. mais on va finir par gagner. Donc, est-ce que le président Biden va essayer de changer cette situation-là? Et il faut imaginer là qui s'en vient en Israël alors que la situation des civils palestiniens est une catastrophe. On dit qu'il y a 1 million de gens qui ont été déplacés depuis les représailles israéliennes, depuis cette décision aussi d'Israël de demander aux Palestiniens du nord de la bande de Gaza de s'en aller vers le sud. Les gens, 600 000 personnes qui ont accepté de faire ça, qui ont répondu à la demande d'Israël. Mais quand ils descendent vers le sud, d'abord, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, on connaît la situation catastrophique. L'OMS parle vraiment d'une catastrophe dans cette situation-là. Et donc, ces gens-là arrivent vers le sud et souvent, il y a même des bombardements dans le sud en plus des bombardements dans le nord. Donc, c'est vraiment une situation extrêmement délicate pour le président Biden qui va demander évidemment qu'on ouvre des canaux d'aide humanitaire. Ça se prépare déjà.
Il y a des images qui montrent des palettes de nourriture, oui, de médicaments. Exactement. Et c'est tout prêt pour prendre la route là, vers Gaza.
Il faut imaginer qu'il n'y a pas d'eau. Évidemment, pas d'énergie, pas d'électricité. L'électricité dans la bande de Gaza est principalement produite par des centrales au diesel. Donc, c'est une situation extrêmement catastrophique. Donc, il va probablement, faute de convaincre les Israéliens de renoncer à cette éventuelle offensive terrestre, il va probablement leur demander au moins d'essayer de respecter au maximum les vies humaines du côté surtout palestinien, parce que c'est là qu'il y a une situation extrêmement catastrophique sur le plan humanitaire. Il va vouloir essayer de convaincre les Israéliens de faire des couloirs terrestre pour rentrer ces fameux camions qui attendent avec du pétrole, avec tout ce qu'il faut. Et il y a un problème aussi à régler éventuellement de l'autre côté, du côté de l'Égypte, qui, elle, a une peur bleue que les réfugiés qui sont massés dans le sud de la bande de Gaza s'en viennent chez eux et demandent asile dans le Sinaï, le territoire égyptien du Sinaï.
Bon. On peut se demander, justement, l'objectif ultime de l'offensive terrestre. On comprend, là, c'est éradiquer Hamas, mais il peut se passer quoi au terme de ce conflit, là, qui risque, comme tu le disais, d'être long et coûteux?
Ouais, c'est pas clair, justement. C'est ça qui est le problème. C'est peut-être ça, pour ça que M. Blinken a passé autant de temps avec le gouvernement israélien hier. Et la situation, Paul, il faut le dire, elle est très particulière. Parce que d'un côté, il y a le premier ministre Netanyahou qui dirige encore le pays, mais dont tout le monde dit en Israël que c'est la fin de sa carrière. Quand cette guerre-là va se terminer, cet homme-là ne pourra jamais continuer au pouvoir. Tellement il est critiqué, même par ses propres troupes, qui lui reprochent évidemment d'avoir pas pu empêcher les massacres qu'on a connus à partir de samedi de la semaine dernière. Et la situation aussi est particulière pour Tsahal, l'armée israélienne, qui elle-même est humiliée justement par ce qui s'est passé, par le fait que le Hamas a pu pénétrer sur le territoire israélien. Et donc, un leadership israélien qui est en situation de faiblesse et qui pourrait déraper dans une offensive qui se prépare. Je rappelle, il y a 350 000 réservistes israéliens qui vont être impliqués là-dedans. Utilisation de forces aériennes, navales, terrestres, coûteuses, parce qu'on va faire de la guérilla urbaine. Les Israéliens, ça va être très difficile pour eux parce que les militants, les milices du Hamas les attendent et depuis longtemps. Beaucoup de pièges, sans compter le fait, évidemment, qu'il y a des otages qu'il faudrait préserver dans cette offensive-là. Donc, on se demande quel est le but vraiment de cette offensive terrestre dont on dit qu'elle est pensée pour aller décapiter le Hamas. Or, il y a beaucoup de critiques qui disent on va peut-être réussir à décapiter le leadership officiel du Hamas, mais il y a des centaines, des milliers de jeunes Palestiniens qui n'ont rien, qui sont dépourvus de tout, qui sont sans espoir et qui vont faire renaître la violence d'une façon ou d'une autre. Il y a d'autres façons de régler ce problème.
Bon, et ça arrive alors qu'il y a d'autres dossiers pour les États-Unis. On peut penser à l'Ukraine, évidemment, et aussi les enjeux qui concernent Taïwan.
C'est inouï. Il faut imaginer, là, On dirait que les choses se calment en Ukraine parce qu'on n'en entend pas parler. La priorité des médias, c'est vraiment actuellement le conflit au Moyen-Orient, mais la guerre en Ukraine continue. Mm-hmm. L'Ukraine attend une aide de 24 milliards de dollars. C'est un budget qui n'a pas été voté encore par le Congrès américain, mais c'est là. C'est énorme, 24 milliards de dollars. Les Américains ont beaucoup concentré leurs efforts militaires ces dernières années, aussi en Asie. Pour contenir la Chine, c'est-à-dire empêcher la Chine de prendre de l'expansion et aux dépens de ses voisins. On parle évidemment de l'affaire de Taïwan où les États-Unis ont investi des fortunes avec les Taïwanais pour élaborer cette stratégie qu'on appelle de porc-épic, c'est-à-dire que Taïwan, pour résister à une offensive chinoise, se protégerait de façon tellement massive que ça coûterait très cher en vies humaines pour les Chinois. C'est une tactique pour repousser une éventuelle attaque jusqu'à ce que les forces américaines ou autres viennent prêter main forte à Taïwan. Donc, une poudrière là aussi. Là, si on ajoute à tout ça Israël, le gouvernement israélien demande déjà 10 milliards d'aides spéciales au gouvernement américain. Alors, on imagine cette espèce de diversification là, des points extrêmement dangereux sur la planète pour les Américains qui demeurent encore cette espèce de police là, de la planète. On dit que, par exemple, les Américains qui ont déjà massé là, deux porte-avions hein, dans la région en face d'Israël, dans la Méditerranée, on dit que 2000 Marines américains s'en viennent sur le terrain. Si ce front-là s'étend, l'Iran qui dit que si les civils palestiniens à Gaza sont trop menacés, on va déclencher le front de défense islamique dans la région. Alors, est-ce que l'Iran va agrandir encore ce conflit-là? C'est toutes des questions qui sont extrêmement délicates. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au moment où tout ça se passe, on peut penser que la Russie, d'un côté, M. Poutine qui sera à Pékin cette semaine, et la Chine qui observe la situation, en tout cas, regardent tout ça avec beaucoup d'intérêt parce que plus les États-Unis vont s'étendre, plus les États-Unis vont devenir vulnérables.
Mais j'allais dire, Jean-François, l'inquiétude de beaucoup des auditeurs, c'est de dire, est-ce que ce conflit, la façon dont Israël a choisi d'intervenir, ne va pas avoir un effet régional? L'Iran qui dit, s'il y a une offensive terrestre, on va se mêler de ça.
Ouais.
Encore au Liban, le Hezbollah, des bombardements, il y a une dizaine de victimes dans les dernières heures. On sent qu'il y a un potentiel que ce conflit prenne de l'ampleur. Est-ce que Israël pourrait faire les choses autrement, s'affirmer autrement que d'y aller avec une offensive comme celle-là?
Ouais, moi j'aime bien, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Friedman, qui est un expert de la région et qui a fait encore une fois hier une chronique où est-ce qu'il dit il faut arrêter cette folie-là. Il ne faut pas se lancer dans une offensive terrestre qui va coûter une fortune matériellement qui va ruiner l'État d'Israël, mais qui va donner lieu à un conflit où tous les jours, on va voir des Palestiniens, des civils palestiniens mourir ou être obligés de se lancer dans une immense migration sans savoir où aller pour trouver refuge. Alors il dit, il faut cesser cette histoire-là le plus tôt possible. Ça ne mènera à rien. Il dit lui-même ce que je disais tantôt, décapiter le leadership. Il va renaître de toute façon. Toutes ces opérations-là dans le passé n'ont simplement que créé encore plus de haine du côté des militants extrémistes palestiniens et la boucle continue. Alors, ce qu'il dit, lui, puis il a parlé à beaucoup de militaires, de stratèges militaires et tout ça, et de politiciens évidemment, surtout dans le monde arabe qu'il connaît très bien. Il dit, il faut renoncer à une opération terrestre. Continuer, peut-être, oui, si vous voulez, nuire au leadership du Hamas des frappes, mais à condition qu'elles soient chirurgicales pour préserver justement le plus possible la vie des Palestiniens et des soldats israéliens aussi. Une offensive terrestre serait très coûteuse. Il faut négocier en même temps la libération des otages et pendant ce temps, dit-il, il faut construire avec les forces modérées d'Israël et de Palestine une alternative légitime au Hamas. Ça, c'est très intéressant aussi, penser tout de suite à la suite. Ceci dit, il dit c'est ce que souhaitent les familles des soldats israéliens, les otages israéliens, les citoyens de Gaza et beaucoup d'alliés d'Israël, c'est vrai, ils le disent, l'Europe en particulier, voudrait une autre solution qu'une offensive terrestre. Mais même la pression que compte exercer M. Biden, Paul, demain, arrivera sans doute pas à dissuader le leadership israélien qui est extrêmement, comme je l'ai dit, impulsif et fragile ces temps-ci, à déclencher cette fameuse offensive.
Merci beaucoup, Jean-François.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler du Front commun maintenant parce que les résultats des votes de grève sont connus. C'est un vote, oui, positif à 95%. Il paraît que c'est historique. Le Front commun, ben, c'est évidemment la CSN, la FTQ, la CSQ, la PTS. Éric Gingras, le président de la CSQ, est avec nous. Monsieur Gingras, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
En quoi c'est historique, 95% d'abord?
Ben, il y a deux choses. Premièrement, il faut retourner il y a 40 ans pour un mandat de cet ordre-là, de ce type-là, donc pouvant mener à la grève générale limitée. Donc, ça fait 40 ans qu'on n'est pas allé voir les membres en front commun avec un mandat de ce type-là. Et deuxièmement, ben le taux de positif là, derrière ce mandat-là, 95%, ça aussi. Puis, c'est vrai, ce sont des chiffres, là. Des fois, tu fais des moyennes, puis on fait toutes sortes de choses à des moyennes, là, mais c'est vraiment 95, c'est ce qui est ressorti, je vous dirais, dans la majorité des syndicats affiliés et dans l'ensemble des quatre organisations qui forment le Front commun.
Le taux de participation?
Taux de participation, c'est difficile de faire une moyenne. Hein. Si j'ai un syndicat qui représente 2000 membres, puis qu'il y en a 50% qui se présentent, ça fait 1000 personnes, puis d'un autre, j'ai une accréditation de 100 personnes, puis il y en a 20%, c'est difficile de faire la moyenne des deux.
OK, mais si mais vous prenez, globalement, c'est quoi le pourcentage de vos membres qui ont voté?
Écoutez, du côté de la CSQ, on est autour de 30-quelques% des membres qui ont voté, mais c'est sûr qu'il y a des endroits où le taux de participation est plus élevé. Le secteur aussi. Je disais toujours comme exemple, lorsqu'on est dans un milieu, par exemple, Cégep, un établissement, les gens y vont, ça va assez rapidement, il y a un certain nombre, 200, 300, souvent les pourcentages vont être plus élevés. Quand on va, par exemple, en milieu hospitalier, 3, 4 établissements, ben là, c'est plus difficile de rejoindre les gens. Donc oui, ça va à 15%, ça va à 70%, mais on travaille fort là-dessus. Là. Ça,
non,
c'est
mais
clair.
Je comprends, mais c'est quand même, en gros, là, les deux tiers des membres qui n'ont pas voté. Là.
Ben, écoutez, faut le voir comme ça, mais en même temps, il y a certains milieux où, par exemple, il y a une certaine précarité. Les gens sont moins intéressés à y aller. Vous savez.
Hey, non, mais voter la grève, là, on parle pas de voter.
Je suis absolument d'accord avec vous. Puis, ce qu'on tente de faire, c'est bien sûr augmenter ça. Il y a des milieux de plus en plus avec la pandémie qui y vont par vote électronique. Moi, je regarde mon syndicat affilié sur la rive sud de Montréal, syndicat de Champlain, taux historique à 48%, qui ont voté à 94% pour la grève du côté de la section Marie-Victorin. Ça s'est fait par vote électronique, il y avait deux jours pour le faire. Donc, c'est une nouvelle façon de faire pour faire progresser cet appui-là. Par contre, malgré tout, même dans les accréditations où il y a eu peut-être un 10 ou 20% de taux de présence, ça a augmenté partout. Donc, ce qui est clair pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça a augmenté partout, les votes, même ceux où il y a un petit peu moins de participation, comme je l'ai dit, puis on le cache pas, là, je veux dire, c'est arrivé. La participation était plus grande. Mais le taux, lui, a été sensiblement le même partout. Qu'il soit 20% de participants ou 70% de participants.
Non, je comprends.
Donc, c'est quand même un message. Puis vous savez, présentement, bon, on a un gouvernement qui était là avec 66% de votants. Il faut faire sortir le monde. Il faut faire travailler le monde à cette démocratie-là. Puis c'est ce qu'on fait quand même.
OK, mais des fois, on conclut vite que ceux qui veulent la grève le plus, c'est ceux qui vont sortir le plus pour aller voter.
Et si vous demandez à mes collègues qui sont sur le terrain, ils vont dire que c'est souvent le contraire. Ceux qui veulent vraiment pas, ils se présentent.
Ouais.
Oui. Mais puis je donnais l'exemple de syndicat de Champlain où ceux électroniques, tout le monde pouvait voter, sont arrivés à 94%, puis dans d'autres, sont aussi arrivés. Alors, on voit, moi je pense que c'est, je comprends la question, ça me fait plaisir d'y répondre, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un appui massif historique. Là.
OK. L'autre affaire, est-ce que, parce que on est toujours dans une perspective de négo, là, vous avez sorti le mandat, tu dis autres, on est prêt à sortir, ça va jusqu'à la grève générale limitée.
Ouais.
La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a dit, on va élaguer. Elle devait recevoir les propositions, les branches coupées, là, en fin de semaine. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y en a pas eu de votre part ou de la part du Front commun des propositions envoyées à Maître Lebel.
Ouais, ce qu'on a dit au Conseil du Trésor, c'est que du côté du Conseil du Trésor, jusqu'à vendredi, on fait des dépôts aux tables. Jusqu'à vendredi. Ils ont pris deux semaines pour les faire entre le moment où on l'a annoncé et le moment où ça a été fait partout. Ce qu'on a répondu, c'est que oui, il y aura du mouvement fait aux tables de la part des syndicats du Front commun dans les prochaines semaines. Je veux dire, aussi, il faut prendre le temps de regarder.
Juste que je comprenne, Québec dit on a ramené ça à 5 demandes par table.
Oui.
Voici ce qui est important. Oui. Voici sur quoi. Est-ce que ça, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Parfait.
Mais là, j'aurais tendance. Désolé de mettre un mais. Je vais en mettre un. Il y a des demandes, des fois, qui peuvent en regrouper plusieurs. Fait que le 5, c'est la géométrie variable. Et toutes leurs autres priorités, ça faisait pas partie de l'élagage, là. Toute la notion d'ancienneté, puis tout ça, là. Il y a des tables où il y a une douzaine de demandes. Donc, il faudrait, en tout cas, je le précise quand même.
Vous, allez-vous arriver avec une liste de priorité minceur un peu, là? Dire, voici vraiment ce que mes membres veulent.
Si vous me dites priorité minceur, je vous réponds oui. Si vous me dites 5, je vais tout de suite être franc, on n'arrivera pas à toutes les tables à 5. Il y a des tables qui regroupent 81 catégories d'emplois. Par exemple, personnel de soutien du côté du personnel scolaire peuvent pas arriver avec 5 demandes. Après ça, je pourrais vous dire oui, puis ils vont en regrouper plusieurs, puis ça va en faire 5, là. Mais on jouera pas cette game-là.
Moi, je joue pas le nombre exact, là. Non. Je veux savoir si on va se parler des vraies affaires à un moment donné.
On est rendu là. On est rendu là. Maintenant, est-ce que ça va être à géométrie variable en fonction des tables? Puis ils vont prendre des décisions. Vous savez, d'un côté, on se pose la question à savoir qui a participé au vote de grève, mais quand on fait une cure minceur, on consulte. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura des rencontres dans différentes fédérations qui vont aller voir leur monde. Parce que lorsqu'on a déposé nos demandes, là, c'était suite à une consultation des membres.
Okay.
Donc, pour être en mesure de continuer à aller de l'avant, faut aller voir notre monde qui représente. Là,
là on est mi-octobre.
Oui.
C'est quoi la séquence des moyens de pression là qui peuvent culminer avec la grève générale illimitée? Ça commence quand, autrement dit?
Bon, je sais pas encore, là. Justement, là, les prochaines semaines. Ben, c'est parce que les prochaines.
On me dit que les horaires de piquetage ont commencé.
Ouais, ça, écoutez, ben honnêtement, je suis quand même président de la CSQ, j'en représente des gens en santé, puis il y a rien qui a été appelé pour l'instant. Moi, je vois des rumeurs sur les médias sociaux de date, là, puis je suis même pas courant.
Je parle pas de date. Moi, je vous parle, ouais. Je parle de vos membres qui me disent dans le réseau de la santé qu'on devrait faire des horaires.
Ben, tu sais, il y a des obligations administratives des fois qui.
Faut prévoir, tu comprends? Exactement. Faut être piqueté à la date, là.
Ouais. Mais l'idée, c'est que nous, ce qu'on a dit à notre monde, qu'on allait regarder la conjoncture. Puis là, est-ce que le gouvernement a fait une partie du travail? Puis là, on va prendre le temps de l'analyser. C'est peut-être ce côté-là là, que Mme Lebel aime pas. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va prendre quand même les prochains jours, prochaines semaines pour analyser puis voir en tout cas une réponse. Parce que, bon, en présenter 5, s'il y en a une qui est une demande qui va faire mal, ben c'est la négo, là. Peut-être qu'il va falloir que je regarde qu'est-ce que moi, je garde de mon côté. Ça fait partie de la négociation. Donc là, on est en train de regarder ça. On va analyser qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est certain que si les choses ne bougent pas, ben on va regarder qu'est-ce qu'on fait à partir du mois de novembre, par exemple.
OK, mais ça va, comment je dirais, ce dont on parle, c'est avant Noël.
Ben oui et non. Parce que
ça peut continuer après, là.
Ben oui. Effectivement. Est-ce que, disons-nous les choses claires et simples. On veut régler le plus rapidement possible.
Oui.
Ça, c'est une chose. Les membres ont tous voté 95% pour la grève. C'est un appui qui est fort. Ils nous ont dit, on a des grandes attentes. Donc, ça aussi, ça fait partie, hein. On veut pas se ramasser à être des syndicats qui vont proposer.
Vous voulez pas d'entendre de principe et vous faire planter.
Ben, c'est normal. Okay. Et ça, on le voit beaucoup présentement, là. Et oui. Ça, ce message-là, c'est ça aussi qu'ils nous ont dit avec un appui de 95% à nos membres. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est arriver avec une entente le plus vite possible. Si on a besoin d'aller avec l'utilisation des mandats de grève, on le fera, mais on va bien sûr analyser la situation. Le but, c'est vraiment d'arriver à un règlement. Puis, vous savez, si on peut éviter l'affrontement dans le secteur public, c'est une bonne chose. Si on veut attirer du monde, si on veut garder notre monde, il faut éviter l'affrontement.
Ouais.
C'est un message aussi qu'il faut passer.
Moi, l'histoire enseigne que le mariage front commun, là, c'est un des mariages les plus difficiles. Avec votre conjointe, c'est déjà un défi hein, pour n'importe quel couple. Mais un front commun, c'est encore pire. Mm. Êtes-vous tous à la même place? Pas de chicane, ça va bien, tout le monde est heureux, on pense la même affaire au même moment tout le temps.
J'entends de plus en plus parler de ça dans certains médias, puis moi je vous dis c'est qu'on s'entend très bien.
Bon.
Est-ce que il faut s'asseoir puis discuter pour arriver à une voie de passage? La réponse, c'est oui. On a 4 organisations, des cultures différentes, mais l'objectif est le même et surtout ce que vive notre monde. Parce que faut pas oublier que le Front commun, l'idée du Front commun, elle vient de la base. C'est les membres qui nous ont dit « Je pense qu'on devrait être en Front commun cette fois-ci. » Ils nous ont donné ce mandat-là. Puis les besoins, qu'on soit en santé, collégial, en éducation, qu'on soit prof, personnel de soutien, professionnel, peu importe les réseaux, sont les mêmes. Donc ça, cette volonté-là, okay, avec un objectif commun, donc oui, on s'entend bien.
Puis votre fonds de grève, il y a combien là-dedans?
À la CSQ, on n'en a pas beaucoup.
Non?
Ben non. CSQ, majoritairement du secteur public, historiquement, pas beaucoup de grèves. Donc ça, c'est parlant parce que ça dit que les gens sont prêts à mettre de l'argent, okay, sur la table. C'est pas n'importe quoi, ça, là. Aussi dans la compréhension de comment les gens sont écœurés.
Monsieur Gingras, merci d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir.
Éric Gingras est le président de la CSQ et donc membre du Front commun. Maintenant, la presse nous dit ce matin qu'il y a 400 millions de dollars destinés au rattrapage des chirurgies dans les hôpitaux qui sont encore dans les coffres du gouvernement, que les montants n'ont pas été utilisés. On sait que la Fédération des médecins spécialistes a fait des efforts pour aller chercher le maximum d'argent dans ce qu'on appelle la pertinence des actes. Est-ce qu'un acte vaut autant? Est-ce que ça, c'est aussi pertinent en 2023 que ce l'était il y a quelques années? Donc, il y aurait une cagnotte de 400 millions. Là, je sais qu'au ministère de la Santé, on joue un peu sur les chiffres. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de réduire le temps d'attente, c'est de réduire la liste en chirurgie. Docteur Vincent Oliva est avec nous, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Docteur Oliva, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, on va mettre ça clair sur la table. De 400 millions, est-ce que c'est le montant qui est prévu pour le rattrapage en chirurgie?
Oui, absolument. C'est un 400 millions qui a été récupéré dans l'enveloppe des médecins spécialistes pour augmenter l'accès à la population à des soins. Puis ce 400 millions-là est dédié pour le rattrapage en chirurgie.
OK. Comment on explique qu'il n'y a pas un sou de dépensé jusqu'à maintenant?
Ben, quand je vous dis que le système est dysfonctionnel, je le dis de temps en temps, là, on signe une entente au mois de mai, ça fait 5 mois. 5 mois plus tard, on dit que les messages sont pas descendus. Honnêtement, c'est ridicule, puis il y a de quoi se poser des questions.
Et c'est quoi ce comité-là dont les travaux, semble-t-il, ne sont pas terminés sur l'allocation des fonds?
Bon, c'est un comité qui discute de comment dispenser les sommes, mais honnêtement, le plan est très simple, OK? Le plan, c'est un, d'arrêter de reporter des chirurgies puis de finir les programmes opératoires. Okay? Le plan, il réside sur ça. Ensuite, il y a aussi une volonté des médecins de travailler sur des heures défavorables, organiser des programmes de soir, de week-end s'il le faut. Puis ça a été fait de façon assez minime. On comprend qu'il y a une pénurie de personnel, donc c'est pas facile à organiser. Mais le gros du plan, là, puis il faut comprendre un bloc opératoire, comment ça fonctionne. Là, normalement, ça devrait opérer jusqu'à 4 heures. Puis vers 2 heures, 2 heures et demie, souvent, les cas commencent à être annulés parce qu'on a peur de déborder. Donc, tous les jours au Québec, dans les blocs opératoires, les programmes ne se terminent pas. Puis nous, c'est ce qu'on demande. On demande tout simplement de finir les programmes opératoires pour que la liste d'attente arrête de s'accumuler.
Mais j'allais vous dire, est-ce que c'est réaliste dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? Il y a eu tous ces débats sur le temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que c'est donc réaliste de penser qu'il y a des gens qui vont accepter de terminer à 17 heures, 18 heures, travailler sur des horaires moins favorables pour justement rattraper le temps en chirurgie?
Ben, il y a de l'organisation des soins là-dedans, puis on parle pas nécessairement de finir à 18 heures, on parle de faire rentrer le dernier cas qui est prévu. Quand le patient attend dans le couloir puis est à côté du bloc opératoire à 2h15, puis on lui dit on fera pas votre chirurgie parce qu'on a peur que ça déborde le 4 heures, il y a une marge là entre ça puis finir à 18 heures.
Docteur Oliva, je vais prendre un cas là, puis ça peut sembler anecdotique, mais je trouve que ça illustre quand même ce que ça veut dire le temps d'attente. C'est un auditeur qui, depuis environ un an et demi, là, peut pas écrire. Problème de main, attend pour une chirurgie. Et ce qu'il me dit assez clairement, il se fout de l'endroit où il va se faire opérer. Dans un hôpital, dans le réseau public, dans une clinique où il y a un corridor et que c'est payé par l'État. Autrement dit, que le gouvernement paye puis qu'ils me disent où aller tout simplement, ça semble encore bien compliqué.
Ben, le patient a absolument raison. Le patient, il devrait avoir ses soins, que ce soit dans les hôpitaux, dans un CMS qui est subventionné par l'État. C'est des vases communicants, puis ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'on dit, c'est on peut-tu s'organiser pour finir les programmes, puis on peut-tu avoir une organisation qui a de l'allure? C'est quand même le ministère qui est en charge d'organiser les soins. Nous, on dit, on est au rendez-vous, il y a de l'argent. C'est quoi le problème? Qu'il paye comme il faut le personnel, puis il va en avoir du monde pour travailler.
Docteur Oliva, merci beaucoup. Docteur Vincent Oliva est le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Et c'est ça l'enjeu. L'argent est là, c'est toujours pareil. 400 millions, c'est dans le coffre-fort, puis on attend que les programmes. Mais là, tu lis ce matin que le comité n'a pas tout à fait terminé ses travaux, puis que là, c'est l'été, puis qu'il y a eu les vacances. Je veux dire, le patient est rendu ailleurs, et le patient n'est plus patient. Il est en train de trouver que c'est long, et que les grandes promesses, ben ça tombe à plat, tu sais. Et là, on veut du rendement. Quand ça fait 2 fois qu'on t'annule, quand se fait tu te présentes à l'hôpital, t'es à jeun toute la journée, puis à 4h15, on t'explique que malheureusement, tu vas retourner chez vous et qu'on va donner une nouvelle date. C'est peut-être pas ce que tu as le goût d'entendre nécessairement.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On a beaucoup parlé de ces clients commerciaux de la Banque nationale qui ont vu leur compte se faire vider. Des montants quand même qui peuvent aller jusqu'à 250 000 $. Des fraudeurs qui ont réussi à obtenir des infos personnelles des clients et donc d'aller, comme ça, pirater le compte. Les questions sont les suivantes. Est-ce que la Banque nationale va rembourser ces clients qui ont tout perdu? Si oui, à quelle hauteur? Et comment la banque peut expliquer ce qui s'est passé? Geneviève Turbide-Potvin est avec nous. C'est la première vice-présidente entreprise et gestion privée de la Banque nationale. Madame Turbide-Potvin, bonjour.
Bonjour, merci.
D'abord, on parle de combien de clients?
On parle de quelques dizaines de clients qui ont été affectés au cours du mois de septembre dernier.
OK. Et en termes de montant, ça représente combien au total?
Pour le moment, on n'ira pas sur cette vague-là. On ne veut pas parler précisément des cas parce qu'il y a certains éléments qu'on doit encore de clarifier. On est encore en enquête sur une certaine partie de ceux-là. Et puis, on doit confirmer quelles sommes ont été réellement fraudulées et quelles sommes ne le sont pas. Donc, on n'est pas en mesure actuellement de donner un montant
exact. OK, mais quand vous me dites, ça fait quand même plusieurs semaines que c'est arrivé, là?
Ben, faut se rappeler une chose. Premièrement, on a 150 clients commerciaux. On parle de quelques dizaines de clients commerciaux qui ont été affectés. Ça a été une campagne d'hameçonnage, donc sur plusieurs semaines. Donc, c'est pas tous les clients qui ont été malheureusement pris dans cet hameçonnage-là à une période précise. L'autre élément, c'est en date de vendredi dernier. Je vous dirais que la majorité de ces clients-là, on avait réussi à retrouver les fonds et le compte avait été compensé. Donc, en fonction de tout ça, il reste quelques cas encore. Il reste quelques cas qu'on est en train de terminer notre étude. Il y a quelques cas qu'on se doit de terminer. On a bon espoir, je vous dirais, que dans les prochains jours, d'avoir une réponse positive pour ces clients-là.
OK. Mais là, j'essaie de garder ça simple pour les auditeurs ce matin-là. Moi, mettons que je suis votre client, le commercial, OK, par inadvertance ou parce que je suis victime d'une fraude, d'une arnaque, là, un pirate obtient des informations confidentielles, va dans votre banque, dans mon compte et vide le compte. Qui est responsable?
En fait, il y a différents cas. Fait que ça dépend justement
de
quelle
manière. Non, mais mon cas est simple. Je suis pas le fraudeur. Là. Je suis la personne qui s'est fait piquer son identité. Ça permet à quelqu'un d'aller vider mon compte. C'est qui le responsable?
La responsabilité, je pense qu'elle est commune. Elle appartient aux deux côtés, dépendant du cas aussi qui est arrivé. Dans ce cas-ci, malgré le fait que c'est une campagne d'hameçonnage, il y a différentes façons que les clients ont été affectés. Donc, ils ont donné leur information personnelle sous différentes formes. Donc,
Non, ils n'ont pas donné, ils se sont fait piéger.
Assurément, vous avez raison.
Okay, ils n'ont pas collaboré à l'arnaque, c'est pas pareil.
Assurément pas. C'est très malheureux, puis malheureusement, on est pris dans cette situation-là qui touche pas juste la Banque nationale, qui touche l'ensemble des institutions financières, puis c'est mondial. Mm-hmm. On se rappelle qu'avant, on faisait nos transactions financières, on allait en succursale, on connaissait la personne devant nous, on était capable de s'identifier. Maintenant, c'est plus facile, c'est plus agile, on fait ça électroniquement. Mais veut pas, ça ouvre la porte quand même à nos fraudeurs.
Okay. Les victimes sont clients de la Banque nationale.
Oui.
Est-ce que les mêmes bandits ont ciblé d'autres institutions?
On n'est pas la seule à vivre cette situation.
Non, mais le même genre d'hameçonnage, la même période, les mêmes individus au même moment. Autrement dit, comment ils ont pu tomber juste sur des clients de la Banque nationale?
Ce qu'on remarque, là, présentement, on parle de ceux de la Banque nationale. C'est sûr que quand il nous arrive une situation comme celle-ci, ce qu'on se concentre, c'est retrouver les fonds et on s'occupe de nos clients. Ça, c'est la priorité. Donc, c'est sûr qu'on s'en va pas. C'est pas les médias, malheureusement, qu'on gère en priorité. C'est vraiment nos clients. Et de recouvrir les fonds.
Je comprends, mais des fois, ça aide à calmer vos clients. Beaucoup de vos clients, parce que votre gestion n'a pas été bien bonne, on va se le dire, là, sur le plan de l'image. Ça fait des semaines que ça traîne. J'ai de vos clients qui m'écrivent. J'en ai un qui m'a écrit qui s'est fait siphonner 250 000. Soudainement, hier, ça a l'air que là, on avait trouvé on lui a offert 50 % du montant au départ. Je sais pas trop pourquoi. Puis on lui a répondu, c'est sur l'offre de la banque. Pourquoi il perdrait 50 % du montant? C'est pas de sa faute.
Ben, la première chose, je pense qu'il faut que je revienne sur les faits. Avant même qu'il sorte un article dans les journaux, je répète que la majorité de ces clients-là, on avait recouvert les fonds et les comptes avaient été crédités. La première chose qu'on a fait lorsque la situation est arrivée, c'est de prendre contact avec chacun de ces clients-là individuellement. Et dans certains cas, pour s'assurer de la pérennité de ces entreprises-là, on a offert toutes sortes de formes de liquidité pour être capable de passer à travers
ce
moment-là.
C'est pas ça que j'entends. J'entends, c'est que se sont fait dire, on va voir, on va déterminer le montant qu'on peut ou pas vous rembourser. Ils n'ont eu aucune garantie, aucune certitude.
Si vous me permettez de continuer, je vous parle de la majorité qui a été faite. À partir de ce moment-là, est-ce que certains clients ont vécu une expérience différente avec la banque? C'est vrai. Est-ce que pour tous ces clients-là, ça a été une expérience qu'ils ont senti qu'ils étaient pris en charge à 100%? Je pense qu'on a un bilan à faire là-dessus. Et honnêtement, au nom de la banque, je m'excuse auprès de ces clients-là. Okay. La seule chose que je veux juste ramener, on a, au moment des faits, lorsque c'est sorti vendredi dernier, la majorité des clients, et on avait bon espoir aussi que l'ensemble des autres clients dont il restait, qui avaient vécu des cas plus complexes, on était en mesure de leur donner une réponse rapidement. Je pense que le bilan, on n'est pas encore à l'heure du bilan. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va terminer nos enquêtes. Mais à l'heure du bilan...
Est-ce que tout le monde sera remboursé?
On a bon espoir qu'on va être capable de recouvrer les fonds chez 100% de ces clients-là. Si je me fie, par exemple, à celui qu'on a terminé, une grosse proportion de notre clientèle, on a recouvré 100% des fonds.
Mais est-ce que ça se peut qu'il y en ait qui ne soient pas remboursés en totalité?
C'est pas ce sur quoi on travaille actuellement.
Mais est-ce que ça peut arriver?
C'est pas ce sur quoi on travaille.
C'est pas votre objectif, mais vous pouvez pas donner la garantie à ces clients-là qui seront remboursés. Ça va dépendre.
Ce que je peux donner,
vous souhaitez que ça soit ça,
oui,
mais il n'y a pas de garantie.
Ce que je peux donner comme garantie, c'est qu'on a toujours supporté nos clients. Ça fait 164 ans, on va continuer à le faire. On l'a fait dans toutes sortes de cycles économiques. Puis je pense que c'est ça notre modus operandi. Est-ce qu'on peut être plus clair? Est-ce qu'on aurait pu être plus transparent face à où on est rendu dans notre processus? Je pense que c'est là qu'il va falloir travailler pour faire le bilan. Mais on a toujours l'intention de supporter nos clients. Okay. Ça va l'être. Et je pense qu'on est rendu là. On est rendu à faire le bilan. Puis de continuer à dire qu'est-ce que ça nous prend. On va continuer de mériter ce privilège-là que la confiance de nos clients.
Ouais, mais moi, je suis pas un banquier. Là, puis, tu sais, moi, je suis un client bien ordinaire. Puis depuis 24 heures, je parle avec mon ami Pierre-Yves. Là, et ma conclusion comme client, là, j'en laisse le moins possible dans mon compte parce que si je me fais pirater, je vais en perdre le moins. Je suis mieux de prendre des certificats de dépôt pour 30 jours, 60 jours que de laisser 100 000 $ dans mon compte. Pensez-vous que c'est une bonne idée?
Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Premièrement, chacune des entreprises...
Le contraire m'aurait étonné, là,
on est plus dans le conseil ici. On n'a pas tous les mêmes besoins de liquidité. Donc, je pense qu'un produit peut être poussé de façon unilatérale.
C'est plus difficile de voler un certificat de dépôt que...
Moi, j'aime mieux aller vers... Je pense qu'il faut qu'on ait une conscience ici. C'est un phénomène. On se doit de se protéger. C'est quelque chose qui est collectif. La banque, elle s'assure d'être vigilante, d'avoir des systèmes qui sont aguerris et de les améliorer au fur et à mesure, en même temps que malheureusement les fraudeurs, ça devient de plus en plus sophistiqué. Mais chacun d'entre nous, on a aussi la responsabilité de protéger nos données personnelles et ça devient très, très, très sophistiqué.
Vous allez m'expliquer une affaire.
Je peux vous donner quelques trucs peut-être pour nos auditeurs, je pense
après,
que c'est important.
Mais juste m'expliquer une affaire que j'ai bien besoin de comprendre. Moi, ça m'arrive de faire des transactions, mettons, où le montant n'est pas habituel, où c'est à l'extérieur. J'ai des alertes qui sonnent. La transaction est bloquée. Faut que j'appelle. Il faut que je débloque. Tout ça. Un auditeur, un de vos clients, il dit, moi, je fais toujours des achats aux États-Unis. Là, l'argent s'est retrouvé à Ottawa. Comment ça se fait qu'il y a personne qui a allumé en disant, le montant est important? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de système à l'intérieur de la banque qui a vu l'argent se promener à des endroits inhabituels?
Là, je sais pas lequel vous faites référence, fait que je peux difficilement commenter le cas d'espèce, mais de façon générale, les systèmes sont là, les alertes sont là, on doit les activer,
mais
ça c'est clair.
Visiblement, ça n'a pas trop marché.
On doit les activer. Le 24 heures sur 24, 7 jours semaine, il y a de la vigilance et de la sécurité qui est en cours. La banque a ces systèmes-là mis en place pour être capable de surveiller ces transactions-là. Mais encore là, je pense qu'on peut ajouter des obstacles aux fraudeurs en s'assurant d'avoir cette double authentification-là, d'utiliser les alertes. Et l'autre chose, je veux rassurer l'ensemble de vos gens, l'argent de nos clients à la Banque nationale est en sécurité. L'élément où j'ai besoin aussi de la collaboration de mes gens, c'est de protéger leurs données personnelles. En aucun cas, la banque contacte ses clients pour confirmer des mots de passe, confirmer des données personnelles, que ce soit par téléphone, par courriel, par texto. On ne fait pas ça.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
C'est un plaisir. Merci de votre accueil.
Geneviève Turbide de Potvin, la première vice-présidente entreprise et gestion privée à la Banque nationale.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.